La conversation scientifique par Étienne Klein. Notre invité d'aujourd'hui a eu plusieurs vies et continue de s'en inventer de nouvelles. Bachelière dès l'âge de 15 ans, elle a acquis des diplômes de toutes sortes à la vitesse d'une fusée Soyouz. Doctorat de médecine, certificat de médecine du sport, de médecine aéronautique et spatiale, DEA de biomécanique, doctorat de neurosciences. Puis elle a été médecin, chercheur, ingénieur, spationaute, ministre, présidente de grandes institutions. Et elle fait aujourd'hui encore beaucoup d'autres choses. Bonjour Claudie Agnoret.
Bonjour.
Alors je me suis laissé dire que vous avez passé votre bac à 15 ans, c'est ce que j'annonçais dans le chapeau.
Oui.
Et que dès ce diplôme obtenu, vous avez voulu devenir professeur de sport. Est-ce que c'est vrai ?
Oui, c'est vrai. C'est vrai que le sport, ça a représenté beaucoup dans ma vie. Je faisais de la gymnastique de compétition. Ça portait des valeurs qui m'intéressaient et j'avais envie d'y consacrer mon orientation. Mais bien sûr, à 15 ans, j'étais un petit peu jeune pour aller dans les grandes écoles de haut niveau de sport.
Il y avait
ce problème des jeunes filles en particulier dont la compétition pouvait provoquer des problèmes physiologiques si c'était trop précoce. Donc, je n'ai pas pu rentrer à l'INSEP et j'ai donc choisi de m'intéresser à ce qui pouvait m'aider pour la suite, l'anatomie, la physiologie. J'ai choisi de faire médecine.
Et toujours dans l'idée du sport, l'anatomie pour le sport.
L'anatomie pour le sport, et bon, si on a l'occasion de reparler un petit peu de mon parcours, on verra que le fonctionnement du corps est quelque chose qui m'a intéressé dans toutes ces vies que vous avez commencé à énumérer.
Mais c'est quand même curieux d'avoir l'envie de faire ce métier lorsqu'on passe son bac à 15 ans, un bac scientifique. En général, la pression des professeurs ne vous porte pas à devenir professeur d'éducation sportive, mais plutôt d'aller dans les grandes écoles ou de préparer Polytechnique ou... Non ?
C'est une question que je me suis posée. Bon, je suis née en Bourgogne, j'ai fait mes études au Creusot, et je n'ai pas de souvenir qu'à l'époque, on m'ait montré ces possibilités d'entrer dans des carrières scientifiques et techniques. C'est d'ailleurs quelque chose pour lequel je me mobilise aujourd'hui, pour les jeunes filles, encore plus que pour les jeunes garçons, parce qu'on sait à quel point il peut y avoir un déficit sur ces métiers-là et cette envie d'y consacrer sa vie. Mais moi, c'est pas des possibilités qui m'ont été présentées. Et puis, dans ma famille, on connaissait peut-être pas trop ces écoles-là. Donc, en fait, j'avais pas ça dans mon panorama.
Mais je ne veux pas trop insister là-dessus, mais le bac à 15 ans, ça veut dire qu'on entre en terminale à 14 ans. Et quel est le regard des professeurs
J'ai eu la chance de vivre dans une petite ville, et de la sixième à la terminale, j'ai toujours été avec la même classe de jeunes enfants. Donc en fait, ça faisait partie de mon quotidien, à la fois aussi pour les professeurs à cette époque-là, c'était quand même au siècle dernier. Il n'y avait pas ce regard particulier sur un enfant plus précoce. Et donc il n'y avait pas de traitement particulier par rapport à cette jeunesse au moment du bac.
Alors, en 1969, vous avez 12 ans, je crois. Des hommes marchent sur la Lune.
Oui.
Est-ce que vous avez un souvenir de ce qui s'est passé dans votre tête ? Est-ce que vous avez déjà l'idée de l'espace ? Ou est-ce que...
Alors, j'ai un souvenir effectivement assez précis de ce mois de juillet 69, pendant cette période de vacances, où, comme d'habitude, on était avec mes parents en vacances dans le Midi. Et ce moment magique où... La petite famille était dehors, j'ai un frère et une sœur avec les parents à regarder une télévision qui était à l'extérieur du camping où on se trouvait. Et avec à la fois la lune dans ce ciel et cette image absolument extraordinaire du premier pas de l'homme sur la lune. Et c'est vrai que dans ma tête d'enfant de 12 ans, ça a été une forme de révélation, quelque chose qui était du domaine d'un rêve, de quelque chose qui était... imaginable, même un peu inimaginable peut-être, mais pas accessible. En tout cas, ce jour-là, ce rêve devenait une réalité. Et je crois que plus que le fait du premier pas de l'homme sur la Lune, c'était la possibilité pour un rêve de se réaliser, qui a allumé cette petite lumière dans ma tête. Bon, après, c'est vrai que l'instant était tellement magique et fascinant que ça m'a donné envie de lire, de regarder les documentaires, de suivre. Donc, je connaissais bien ce sujet-là, et probablement ça a renforcé ce qui a donné ensuite résonance au moment où l'opportunité s'en est présentée pour moi.
L'opportunité, c'est 1985, quand le CNES lance un appel à candidature pour des vols spatiaux.
Oui, c'est ça. 1985, un appel à candidature du
CNES. Je peux le dire, j'ai été votre concurrent. J'ai aussi déposé un dossier, vite éliminé pour des problèmes de tympan qui n'étaient pas dignes de devenir ceux d'un spationaute. Mais je me souviens qu'il fallait rédiger une dissertation expliquant ses motivations.
Alors, c'était une opportunité formidable, effectivement, que cette candidature. Moi, j'ai découvert, j'étais rhumato à l'époque, je venais juste d'avoir mon diplôme de rhumatologue et je travaillais à l'hôpital Cochin et je l'ai vu affiché dans le couloir de l'hôpital où je travaillais. Et effectivement, ce que j'évoquais tout à l'heure, cette résonance avec un rêve qui pouvait s'accomplir, m'a immédiatement porté à demander un dossier.
Et le rêve préexistait à l'annonce.
Il y avait dans ma tête effectivement cette fascination d'un monde inaccessible mais désirable et j'en avais envie quelque part. Et là, il y avait cette opportunité, un appel à candidature. Il fallait dans la candidature des scientifiques à laquelle j'apprends que vous avez candidaté aussi, Étienne. Mmh. Il fallait avoir un doctorat. Bon, j'étais docteur en médecine, j'avais mon doctorat, donc j'avais ce qui permettait d'entrer. J'ai demandé ce dossier. Et c'est vrai que doctorat, recherche clinique, la dissertation que vous évoquez. Ben, j'ai dû raconter sûrement ce rêve d'enfant, probablement, cette fascination, cette envie. Et puis j'avais déjà construit dans ma tête ce métier que serait le fait d'être astronaute. Astronaute, bon, ça a plein de facettes tout à fait magiques. C'est à la fois l'explorateur et puis c'était aussi le professionnel, puisque éventuellement c'était sélectionné pour être un professionnel de la recherche dans ces domaines. Donc j'avais déjà élaboré tout un programme de recherche, et là on revient au corps, c'était sur le fonctionnement du corps libéré de la contrainte de gravité.
Donc vous avez été sélectionné avec 6 autres personnes, je crois.
Il y avait 1000 candidats à cette candidature, dont 10% de femmes, donc 100 femmes qui sont présentées. Il y a eu 7 candidats retenus, et j'étais la seule femme dans l'équipe des 7.
Et donc votre premier vol, c'est 1996, je crois,
oui,
avec la fusée Soyouz, station Mir, 16 jours dans l'espace.
Oui.
Voilà, c'est une question qu'on a dû vous poser 250 000 fois, mais je la pose quand même. Qu'est-ce qu'on ressent quand on est dans la fusée, au moment où les moteurs s'allument? En général, on répond, mais j'étais concentré sur ma mission, sur les tâches à accomplir. J'ai du mal à y croire. Est-ce qu'il n'y a pas le sentiment qu'on vit quelque chose d'exceptionnel?
Bien sûr. Et puis, il y a toute cette longue préparation, vous avez rappelé, sélection en 85, moi je suis partie à l'entraînement pour un premier entraînement en 92 et la première mission en 96. Donc 11 années pendant lesquelles on s'approche de plus en plus de ce rêve qui est le vôtre et de la capacité à la réaliser. Alors on est formé, on a des entraînements longs, complexes, on répète les situations.
Est-ce que c'est pénible l'entraînement ? Il doit y avoir des phases pénibles.
Alors, il y a des phases pénibles, bien évidemment. Et moi, je dis souvent que le vol a été beaucoup plus facile que l'entraînement pour le préparer. Mais c'est surtout cette idée que, petit à petit, on s'approche du rêve, du moment. On le touche, on y est presque. Donc, au moment où on monte dans cette capsule Soyouz, au sommet de la fusée Soyouz, confiant en soi, confiant en équipage, confiant en technique.
Pas du tout de peur.
Une confiance, une appréhension peut-être plus d'ailleurs sur sa capacité à affronter des choses dont on a parlé avec ses collègues cosmonautes pendant toutes ces années d'entraînement, mais qu'on n'a pas vécu soi-même. La mise à feu, on l'a pas vécu. Mais moi, je ressentais ce... Non pas une excitation, parce qu'il y avait une concentration profonde sur les phases à mettre en œuvre, mais une impatience. Et j'attendais le moment magique du Zajigagne, qui veut dire mise à feu.
En russe.
Et c'était... voilà.
Mais une confiance totale dans la technique.
Confiance totale. Est-ce qu'on peut avoir une confiance totale? En fait, j'avais une confiance bien élaborée par toutes ces années d'entraînement, et je le disais non seulement sur la technique, mais sur moi-même, sur l'expertise que j'avais acquise pendant ce long processus. Et puis peut-être parce que c'était le système russe, la fusée Soyouz, une fusée fiable,
éprouvée.
Ancienne, éprouvée, plus de 1700 tirs, avec un pourcentage de succès de 98%. Bon, je dirais peut-être pas la même chose si j'avais avait volé à bord de la navette spatiale, dont on sait qu'il y a eu deux accidents terribles et où certaines phases de la mission ne sont pas complètement assurées pour la survie de l'équipage, alors que c'est pas le cas sur le système russe. Donc effectivement, j'avais une confiance forte.
Est-ce que vous vous souvenez exactement de ce moment ou est-ce qu'avec le temps il se dissipe ?
Oui, il est très très présent. Il est très présent parce que je le fais vivre, parce que je le fais vivre avec les autres, parce que j'ai la chance d'être mariée avec un astronaute et qu'on a donc pour moi deux missions et pour Jean-Pierre Régneret aussi deux missions spatiales qu'on partage et qu'on se raconte encore. J'étais encore en début de semaine avec des cosmonautes russes ou astronautes américains et on en parlait encore. Donc c'est vrai que je le fais vivre, puis je le fais vivre aussi parce que j'en parle et que ça fait partie de cette, je dirais, non pas des devoirs, parce que c'est un plaisir, mais quand on a la chance de faire partie des 560 privilégiés qui sont allés en orbite, on a aussi ce devoir de transmission et de partage, parce qu'on est un peu l'incarnation du rêve de chacun. Donc j'en parle volontiers. Et 96-2016, nous sommes à 20 ans de mon premier vol spatial, mais je l'ai toujours très, très présent et j'ai toujours autant de bonheur à en parler.
Qu'est-ce qu'on voit, Claudine Hignoret, quand on est dans cette fusée ? Est-ce qu'on ne voit que des écrans, des manettes ? Quand est-ce qu'on commence à voir la Terre ?
Alors, il y a plusieurs temps. Au début, effectivement, vous êtes installé dans votre siège, dans le vaisseau Soyouz, harnaché, avec en face de vous le pupitre de commande et tous ces voyants sur lesquels vous devez apporter votre vigilance. Il y a une coiffe qui recouvre la capsule, donc les hublots sont masqués. Puis une fois que la mise à feu a permis le début de la propulsion, donc l'extraction verticale du début du combustion du premier étage. Quand c'est sorti de l'atmosphère, là, effectivement, cette coiffe de protection n'est plus nécessaire. Donc la coiffe est éjectée. Et là, vous pouvez voir par le hublot. Et donc ma première vision, c'est effectivement une vision de verticalité, d'extraction verticale par rapport à la Terre.
Mais qui est à quelle altitude à peu près ?
Oh, c'est vers 50 km, 60 km. Et ça dure pas très longtemps parce qu'ensuite, bah, vous commencez à prendre votre trajectoire de mise en orbite et c'est 8 minutes 46 secondes, je crois, entre le moment de la mise à feu et le moment d'injection en orbite après les trois étages de propulsion.
Vous découvrez où vous êtes. Il n'y a aucune préparation pour ce genre de spectacle.
Non, il n'y a pas de préparation et c'est un petit peu perturbant au départ parce que vous avez vos repères habituels qui sont ceux d'un terrien avec ses références de verticale et d'horizontale, de haut et de bas, et du ciel au-dessus de la Terre et de l'Europe au-dessus de l'Afrique. Et puis la première fois que j'ai regardé par le hublot, bah, bien évidemment, le cosmos était en dessous de la Terre et l'Afrique était au-dessus de l'Espagne. Donc ça, c'est un petit peu perturbant cognitivement au départ, mais on a cette faculté d'adaptation qui m'a tout à fait épatée pendant la mission, cette rapidité. En 24 heures, on se sent à l'aise dans l'environnement, pour peu qu'on accepte de passer justement à cette troisième dimension et pas rester coincé dans des références qui sont nos références habituelles.
Vous dites qu'en 24 terrestres. Heures, vous vous sentez chez vous, c'est-à-dire que vous êtes habitué à la pesanteur, vous êtes préparé à ça, j'imagine.
On est préparé, oui. Alors, si vous avez vécu un petit peu certains des moments de la sélection, vous êtes passé peut-être sur le tabouret tournant qui vous permet justement d'avoir des perturbations de votre appareil vestibulaire et qui vous mettent dans un inconfort qu'il faut apprendre à contrôler. Donc, on est un petit peu préparé. Mais bien évidemment, on découvre tout ça. Et c'est vrai que l'acceptation d'un monde différent de celui duquel on vient de partir est un facteur qui permet d'être beaucoup plus rapide, je pense, dans son adaptation. Une image, quand même, ma première image par le hublot, je disais, c'est un confort d'avoir des références et des repères bouleversés, mais c'est quand même l'aurore australe que j'ai vue par le hublot. La première chose que j'ai jamais revue d'aurore boréale ni australe depuis. La seule que j'ai eue, c'est ma première vision par le hublot du vaisseau Soyouz. Et c'est voilà un des moments de plus magiques que j'ai eu la chance de vivre.
Alors Claude Ignoret, vous avez été sélectionné donc en 85, premier vol Soyouz en 96. Entre les deux, il y a la chute du mur. Est-ce que ça a changé quelque chose pour les programmes, pour la façon de les organiser, dans les relations franco-russes?
Alors, la relation franco-soviétique dans le domaine du spatial, de cette coopération très forte qu'on a avec nos partenaires russes, elle remonte aux années 1960. C'est le général de Gaulle qui avait souhaité qu'il y ait cette coopération importante, cette mise en place, avec le premier vol de Jean-Luc Chrétien en 1982, pour ce qui concerne le vol habité, en dehors de la coopération sur des missions automatiques. Et c'est vrai que moi, je suis arrivée à la Cité des Étoiles, à 40 km au nord de Moscou. J'ai passé presque 10 ans de ma vie, de 92 à 2001, à la Cité des Étoiles, près de Moscou. J'y suis arrivée dans une Union soviétique qui venait juste de se terminer. Et donc, en entrant dans une Russie confrontée à des challenges nouveaux qui ont impacté le spatial, bien évidemment. Au tout début, en 92, on était toujours sur cette dynamique d'une guerre des étoiles à peine finie, d'une compétition entre les États-Unis et l'Union soviétique. Et puis petit à petit, c'est vrai que ça, la Russie était un petit peu plus challengée sur sa capacité à maintenir ses programmes, ce qui a expliqué d'ailleurs que le vol de 1996, pour moi, c'était un vol où déjà les Américains étaient à bord de la station quand je l'ai rejoint, la station Mir, puisque en 1995, il y a eu le début du programme Shuttle Mir. La navette américaine Shuttle était en capacité de s'amarrer à la station Mir. Et c'était le début de cette coopération, de ce rapprochement, non plus dans une compétition, comme la guerre que j'évoquais précédemment, cette conquête de puissance, démonstration de puissance d'étapes pionnières entre chacun de ces deux grands États. Et on était déjà dans quelque chose qui augurait de la coopération qu'on vit aujourd'hui avec la Station Spatiale Internationale, qui regroupe 5 partenaires, dont la Russie et les États-Unis.
Alors vous y êtes allé en 2001, donc sur cette Station Spatiale Internationale.
J'ai eu la chance de connaître les deux stations.
Et est-ce qu'il y a des grosses différences? Il fallait tout reprendre à zéro pour vous, ou bien l'expérience de Mir était suffisante pour bien s'adapter à l'ISS?
Alors, la station Mir, quand j'y suis allée, c'était une station qui avait déjà reçu des dizaines d'équipages, donc une maison habitée où il y avait des traces de ces vies successives de ces équipages. Une énorme station, c'est une station qui avait 5 modules. Alors que la Station Spatiale Internationale, quand j'y suis arrivée en 2001, c'était le tout début. Elle a démarré sa construction en 1999. Donc en 2001, en fait, il y avait 2 modules. Il y avait un module russe, qui était très très semblable à celui que j'avais connu dans la station Mir, et puis le module Destiny américain. Donc c'était une toute petite station par rapport à la station spatiale telle qu'elle existe aujourd'hui dans sa complétude. Depuis 3 ans, la station est complètement terminée, la Station Spatiale Internationale. Donc j'ai trouvé en 2001 une station petite, très propre, bien organisée, avec des laboratoires sous forme de racks qui nous permettaient de faire de l'expérimentation davantage comme dans un laboratoire qu'on peut connaître au sol, alors que la station Mir était plutôt un lieu de vie et un lieu de travail dans lequel chacun des contributeurs des pays qui apportaient un programme expérimental apportait non pas sa petite mallette, ça serait, mais son petit élément de laboratoire. Donc deux conceptions différentes, mais pour moi, je revivais la suite. J'y étais préparée d'ailleurs, parce que sur la deuxième mission, j'ai eu une partie d'entraînement à Houston pour me former au module américain. Et sur ces années de 92 à 2001, bien évidemment, la Cité des Étoiles, qui est ce lieu militaire de préparation des cosmonautes, était un lieu, je dirais, assez fermé en 1992, et s'est progressivement ouvert à la fois aux participants qui y entraient et dans les méthodes d'entraînement. Je suis passée d'un entraînement où un simulateur nécessitait d'avoir des ordinateurs qui remplissaient une salle de plus de 100 mètres carrés uniquement pour faire tourner le simu. Et j'en suis partie en 2001 avec des simus en 3D qui tenaient sur une disquette qu'on introduisait dans un petit computer. Donc j'ai vécu aussi cette transformation technologique, la transformation de la coopération entre des adversaires et des compétiteurs en arrivant vers de la coopération internationale et avec cette nécessité, mais qui était très très enrichissante, de s'ouvrir à la diversité des cultures et donc des approches dans la gestion d'une mission complexe.
On peut reconnaître les satellites artificiels à leur accent. Alors que les engins soviétiques ont une musique syncopée, celle des Américains est plus douce, plus modulée. Voici la voix de Pionnier 1.
Alors j'ai deux petites questions à propos toujours de ces vols qui me fascinent. Est-ce qu'on parle beaucoup pendant ce séjour? Est-ce qu'on parle avec les autres? Est-ce qu'on parle beaucoup avec la Terre? Ou est-ce qu'on est dans sa bulle?
Il y a les différents temps. On parle beaucoup avec l'équipage parce qu'il y a les éléments de maintenance, d'exploitation, de vie de la station.
Ce sont des discussions techniques ou on fait part de ses émotions?
Ah oui, il y a tout, bien évidemment. Les discussions techniques, elles sont là parce que le matin, bon, on fait à l'heure du centre de contrôle de la mission qui vous organise.
Le matin, c'est quand?
Le matin, c'est un réveil, je sais plus, ça devait être à 7h et à 7h30, il fallait faire rapport au sol pour la première fois des paramètres de fonctionnement de la station. Là, il y a un petit briefing, comme on peut le vivre dans un équipage, dans des situations un petit peu extrêmes comme celle-là, pour faire le rapport qui est fait par le commandant, mais on en discute. S'il y a des points pour le programme de la journée, c'est ce premier moment de la journée qui permet de faire remonter des informations. La mission de 96, c'était une mission où on n'avait pas un temps de couverture qui nous permettait de parler au sol pendant à 100% du temps. C'était uniquement au moment du passage au-dessus des zones de réception sur le territoire russe. Donc on avait 15 minutes par heure à peu près où on pouvait être en contact. Puis le reste, on était davantage autonome. Sur la station spatiale internationale aujourd'hui, c'est 100% de couverture. Donc on peut interpeller le sol.
Il y a même Skype.
Il y a Skype, on envoie des SMS, on prend le téléphone. J'ai d'ailleurs téléphoné à ma fille depuis la station spatiale internationale. Bien évidemment, on fait tout ça aujourd'hui. Ça, c'est la partie professionnelle du travail à bord, que ce soit de la maintenance, que ce soit de l'expérimentation scientifique et technologique. Et puis après, c'est une petite communauté qui vit des moments exceptionnels dans un environnement extrême et pour lequel, effectivement, on partage des choses en tant qu'êtres humains qui vivons une aventure. C'est non seulement une aventure scientifique et technique, mais tout ça, c'est une aventure humaine absolument exceptionnelle. Donc ça, c'est les moments passés ensemble. Et puis, il y a ce temps qu'on essaie de grappiller sur un emploi du temps très chargé, souvent du temps sur la nuit, justement, où on se remplit les yeux, on se remplit le corps des sensations, à la fois pour soi, et puis pour le transmettre au retour et le partager.
Et votre séjour a duré 10 jours, vous le disiez, dans la station internationale. Quel état d'esprit on est au bout de ces 10 jours? Je pense vous êtes habitué à cet environnement nouveau, à ce nouveau référentiel. Il faut rentrer. Est-ce que vous êtes contente de rentrer? Ou est-ce que si on vous proposait de rester 10 jours de plus, vous seriez ravie?
Si on m'avait proposé de rester 10 jours de plus, je serais resté 10 jours de plus, bien, bien volontiers.
Et encore 10 jours et encore 10 jours, est-ce que on a envie vraiment d'y rester?
Alors, je ne sais pas parler d'un vol de longue durée. Mon mari a eu la chance de faire un vol de 6 mois et moi, pour l'avoir suivi au sol, je sais qu'il y a des moments...
Vous dites qu'il a eu la chance, ça veut dire que vous auriez aimé le faire.
Oui, sans doute. Mais il y a des moments où tout va bien et où c'est formidable. Et puis il y a des moments sur un vol de 6 mois, bien évidemment, comme toute communauté, où c'est un petit peu plus difficile, un petit peu plus tendu, un petit peu plus peut-être de nostalgie du sol, je ne sais pas. Mais bon, ça c'est sur les vols de longue durée. Un vol de courte durée, on est, je dirais, dans un état de un peu d'exaltation permanente. On vit quelque chose qui est quelque chose d'extraordinaire, d'extra terrestre. Donc, on ne peut pas l'analyser à
l'aune. Le retour à la Terre, à la gravité, est-ce qu'il est pénible? Est-ce que...
Alors après, on fait une mission spatiale, on a un programme à accomplir, on en sait la durée, on doit revenir avec des résultats. Donc effectivement, dans les quelques heures qui précèdent le retour, on remballe tous les éléments de ces expériences, on vérifie qu'on a tout ce qu'on doit rapporter au sol, si ça n'a pas été transmis en télémétrie. Ce sont des échantillons à rapporter, que ce soit dans le domaine de la biologie ou dans le domaine de la physique, puisque le programme était sur l'ensemble de ce spectre de recherche en microgravité. Et quand on a rangé tout ça, on s'installe dans son vaisseau, on vérifie toutes les conditions, tous les paramètres. Et puis effectivement, à un moment donné, après avoir fermé l'écoutille, eh bien, la pyrotechnie et les petits moteurs de répulsion se mettent en route. Et vous vous éloignez petit à petit de la station. Ensuite, vous freinez votre vaisseau et vous abordez la rentrée atmosphérique et le retour de
la planète. Là, c'est quand même assez violent, non ?
Le retour m'a paru plus violent que la mise en orbite. J'ai trouvé que ces trois étages de propulsion assez progressifs, avec, effectivement, on atteint des facteurs d'accélération qui vont à 4G, 4G et demi. Mais là aussi, on y est préparé parce qu'on est entraîné avec des centrifugeuses à affronter ces facteurs de charge importants. Le retour, c'est un petit peu plus déstabilisant parce qu'effectivement, la rentrée dans l'atmosphère, c'est très rapide. Ça échauffe quand même beaucoup le vaisseau quand il rentre dans les couches denses de l'atmosphère. Donc on voit par le hublot à ce moment-là ces couleurs qui passent.
Qu'est-ce qu'on voit ? On voit
du transparent, du rose clair, du rose un peu moins clair, du orange, du rouge foncé jusqu'au noir, et les hublots sont complètement occultés. Et d'ailleurs, à un moment donné, il y a aussi une pyrotechnie qui permet de séparer la partie extérieure du hublot de façon à récupérer de nouveau une vision une fois qu'on a traversé ce plasma incandescent. Tout ça, c'est assez fort. Et ensuite, l'ouverture des parachutes multiples, parachutes de freinage jusqu'à l'ouverture de la coupole de 1000 mètres carrés, mais qu'on peut bien évidemment n'ouvrir qu'à partir d'un moment où on a quand même réduit sa vitesse. Tout ça est l'occasion de stimulation, je dirais, physiologique, en particulier au niveau de l'appareil vestibulaire, qui sont au-delà de ce que notre appareillage physiologique est habitué à vivre sur Terre. Donc j'étais très heureuse d'avoir deux missions spatiales, parce que de la première mission spatiale, il y a parfois des moments qui m'ont surpris, inattendu, difficile à percevoir et à analyser. Et la seconde mission spatiale, j'ai vraiment profité de chacune des secondes.
Comment est-ce que vous pouvez savoir que tout est normal, sachant que ce sont des conditions inhabituelles, extrêmes, que vous n'avez jamais connues? Comment est-ce que vous arrivez à bien interpréter les signaux qui vous sont envoyés, le spectacle auquel vous assistez?
Oui, la première fois, il y a des choses qui surprennent, bien évidemment. Quand vous traversez les couches denses de l'atmosphère, dans cette espèce de plasma, ben, il n'y a pas de liaison avec le sol, par exemple. Donc à ce moment-là, vous avez vu avant tous les paramètres de l'impulsion de freinage et de votre angle d'entrée dans l'atmosphère. Donc vous vous dites, tout va bien, je ne vais pas rebondir sur l'atmosphère, ou je ne suis pas en train de rentrer comme un caillou, j'ai le bon angle d'attaque. Mais vous n'avez pas de liaison avec le sol pour vous confirmer tout ça. Et puis ensuite, les liaisons sont rétablies jusqu'à l'impact final. À un mètre du sol, vous avez des rétrofusées qui s'allument pour atténuer l'impact avec le sol. Bon, mais tout ça, effectivement, vous faites là aussi confiance à la technique, à la fiabilité, à la façon dont ça va se passer. Mais c'est assez sportif.
Voilà. Alors, vous disiez, Claude Aigneri, que vous intéressez beaucoup à la physiologie, à l'anatomie, au corps humain. Comment se passe le retour dans le champ de gravité terrestre ? Comment ça se passe quand on ressent à nouveau son poids ? Est-ce que ça craque ? Est-ce que ça se tend ? Est-ce que ça fait mal ?
On a vécu pendant effectivement tout le séjour en microgravité sans poids. Voilà. Cette légèreté du corps, cette capacité à utiliser des modes de déplacement, ça donne une liberté par rapport à ces contraintes de la gravité terrestre. Et moi, j'ai beaucoup apprécié, à la fois apprécier ces moments et puis essayer de les comprendre plus intellectuellement par rapport à la mécanique et à la biomécanique du corps. Et donc, effectivement, légèreté, liberté et un potentiel, la révélation de capacités qui sont habituellement masquées. Voilà, ça c'était le premier point. Après, vous vous adaptez à un environnement qui n'est pas un environnement tout à fait physiologique, que ce soit au niveau cardiovasculaire, que ce soit au niveau squeletto-moteur, musculaire. Et donc, il faut préparer le mieux possible le retour à la gravité terrestre, bon, par exemple des prises d'eau, de sel, pour ce qui concerne les régulations hydrostatiques. Vous êtes confronté pendant la phase de retour, là aussi, à des forces d'accélération qui sont du 4G, 4G5, mais vous partez de 0G cette fois-ci, et non pas de 1G comme au départ. Donc c'est effectivement des forces importantes. Vous êtes aussi un peu fatigué par ce que vous venez de vivre. Donc c'est effectivement un moment physiologiquement pesant.
Est-ce qu'on perd du poids, c'est une question bête, hein. Est-ce qu'on perd du poids quand on n'a pas de poids? C'est-à-dire, est-ce qu'un séjour en apesanteur fait qu'à l'arrivée, on a une masse corporelle plus faible au départ?
Mais je vais vous laisser répondre à cette question.
Mais j'en sais rien. Est-ce qu'on mange bien, par exemple? Comment ça se passe?
Ah oui, s'il y a des... Mais effectivement, la nutrition, c'est important. Et... aujourd'hui, c'est une nutrition qui est, enfin, une alimentation tout à fait diversifiée. Il y a des tas de choses à boire, ce qui n'était peut-être pas le cas sur la station soviétique à l'époque où il y avait une nourriture un petit peu plus, moins diversifiée. Et donc, effectivement, il y a des astronautes qui perdaient pas mal de poids pendant des séjours longs. Bon, moi, j'ai bien évidemment pas perdu de poids parce que...
Pourquoi bien évidemment?
Parce que c'était à la fois court et puis j'ai vécu des moments merveilleux, donc j'étais pas inconfortable, donc j'avais de l'appétit, je trouvais à bord ce dont j'avais besoin, et même si c'était de la cendre angelée ou poulet angelé, c'était pas grave, c'est ce qui me permettait de vivre. Et voilà,
et une fois que vous êtes à nouveau sur Terre, combien de temps vous faut-il pour marcher normalement?
Alors,
l'équilibre.
Et effectivement, le retour sur Terre, ça nécessite de reprendre ces réflexes qui sont liés à la fois à ce qu'on appelle la proprioception et l'extéroception. La proprioception, c'est tous ces petits capteurs qui sont à l'intérieur de vos articulations et de vos muscles, qui fait que vous connaissez la position relative de chacun des segments et que vous pouvez fonctionner. L'extéroception, c'est ce qui concerne la peau. Et bien évidemment, par exemple, la peau de la plante des pieds, quand vous vivez pendant plusieurs mois en microgravité, elle n'a plus la même capacité de réception de ces signaux que quand vous retrouvez au sol. Et puis tout votre système vestibulaire qui doit là aussi se réadapter à une posture et à une compensation de l'équilibre. C'est pour ça qu'on vous voit toujours extrait de la capsule et soutenu par les médecins qui vous accueillent au retour pendant les quelques minutes qui sont nécessaires à recalibrer votre système physiologique aux contraintes qui sont celles-là.
C'est quelques minutes seulement.
Pour un vol de courte durée, oui. Moi, je pense que même une fois sorti de la capsule, j'aurais été en capacité de marcher seul. Ça va assez vite. Sur un vol de longue durée, bien évidemment, c'est pas la même chose parce qu'il y a un déconditionnement musculaire. On n'a pas utilisé les muscles de la même façon quand on est dans cet état de microgravité. Éventuellement, une fragilisation osseuse, un système cardiovasculaire et ses régulations qui ont un petit peu plus de mal à se remettre en place. Et la rééducation après un vol de longue durée est quand même beaucoup plus longue, délicate. On ne vous fait pas repartir immédiatement sur un stade d'athlétisme pour vous faire courir, mais c'est massage, rééducation dans l'eau, de façon à réadapter votre organisme.
On a l'impression que le Dénuré vous intéressait à tout. Quel effet ça vous a fait récemment d'apprendre qu'on avait détecté des ondes gravitationnelles? Ces ondes qui ont été prédites par Einstein il y a un siècle et que...
Je trouve ça absolument magique et fascinant ce que nous offre le 21e siècle, de se dire qu'on peut aujourd'hui avoir des outils qui nous permettent de démontrer des concepts intellectuel qui avait germé, voilà, émergé dans un esprit brillant comme celui d'Einstein. Et je me dis qu'on va avoir la possibilité de comprendre des parts d'ignorance actuelle parce que ces développements scientifiques et technologiques vont nous donner des nouveaux outils
et de
regarder dans le plus petit, dans le plus grand.
Il y a des projets d'installer des satellites qui vont faire des interféromètres sur des distances colossales, plusieurs millions de kilomètres.
Oui, c'est formidable parce que le 2 décembre 2015, l'Agence spatiale européenne a envoyé une mission préparatoire technologique qui s'appelle LISA Pathfinder et qui est effectivement par ces technologies d'interférométrie qui vont permettre, je l'espère, de compléter ces premières données que l'IGO nous a données.
Il y a un projet pour 2034.
Alors aujourd'hui, effectivement, la mission ILISA, qui est la véritable mission scientifique et qui permettra de conforter ces données sur les ondes gravitationnelles, elle est prévue aujourd'hui à l'horizon de 2034. Peut-être que le fait qu'on ait déjà détecté avec LIGO ces éléments permettront de mettre la priorité plus rapidement sur cette mission-là. Mais après, il y a une programmation des différentes missions scientifiques et le champ de l'exploration de l'espace, vous le savez aussi bien que moi, Étienne, est immense avec des explorations de tout type. Aujourd'hui, ce qui se passe avec LISA Pathfinder a essayé de démontrer qu'effectivement, on peut avoir ces petites masses dans une précision suffisante pour ensuite avoir non plus, alors je ne sais plus au niveau de LIGO, quelle était la distance qui séparait chacun des points.
C'était 3000 kilomètres, je crois.
Mais alors là, c'est 1 million de kilomètres pour la mission.
5 millions de kilomètres, je crois, entre les différents satellites qui vont faire un triangle.
3 satellites avec un triangle, effectivement, avec des distances de 1 à 2 millions de kilomètres. Donc je suis passionnée par ces développements technologiques et ce que la science et la techno nous proposent pour l'avenir.
Vous avez l'impression que les scientifiques voient très très loin dans l'avenir. Pour l'espace, c'est 2034, même au-delà. Pour la physique des particules, il y a des projets aussi loin dans le temps. On a l'impression qu'ils voient plus loin que la société elle-même. Est-ce que vous pensez que la société manque de grands projets pour elle-même? Ce qui fait que les scientifiques se projettent dans des temps où on ne sait pas dire quelle sera la société qui porteront ces projets.
Oui, bon, c'est le propre de la science de se projeter vers des futurs très lointains. Rappeler simplement que la mission Rosetta, pour laquelle on a tous été tout à fait admiratifs de la performance d'aller se poser sur une comète, cette sonde de l'Agence spatiale européenne qui s'est posée en 2014 sur la comète 67P, c'est une mission qui avait été conçue en 1994, qui a été lancée en 2004, et où il a fallu 10 ans de voyage pour faire les 7 milliards de kilomètres de la mission. Et donc ça, la science, on le sait bien, ce sont des temps longs, même s'ils sont très accélérés aujourd'hui dans d'autres domaines. Mais en ce qui concerne les sciences de l'univers ou ces missions d'exploration, ce sont des temps longs. Et moi, j'ai un bonheur vraiment très très important à vivre de cet environnement scientifique parce que justement on peut se projeter, avoir des grands projets pour l'avenir, être visionnaire pour se poser des questions fondamentales, bon, sur les origines de l'univers ou sur le devenir de l'humanité quand on envisage de l'exploration habitée. Et je crois qu'on a besoin de ces projets, cette projection vers l'avenir, et puis de se donner les moyens de le construire, cet avenir. C'est pas un avenir qu'on va subir, on a les moyens aujourd'hui et il faut se les donner, il faut se les approprier pour le construire, cet avenir, le rendre possible, en tout cas, comme dirait Saint-Exupéry.
Alors, Claudine Henry, comment est-ce qu'on fait pour devenir ministre quand on a été spationaute? Ça a été quel cheminement?
Pas un cheminement que j'ai décidé moi-même. Il y a beaucoup de choses dans mes vies multiples que j'ai organisées. Et puis, il y a des choses qui sont des opportunités de la vie que j'ai saisies. Ce qui doit sans doute prouver un petit peu mon tempérament optimiste et audacieux et confiant. Et je dirais que pour moi, la confiance, elle est inséparable du risque à prendre pour réussir. Et voilà, j'ai effectivement été contactée au retour de ma mission de 2001, à peine quelques mois plus tard, au moment où j'étais encore dans la présentation des résultats scientifiques ou le déroulement de la mission, pour rejoindre le gouvernement c'était Jean-Pierre Raffarin, le Premier ministre du président Chirac, qui m'a demandé de rejoindre le gouvernement. Alors j'ai réfléchi un petit peu, mais 30 minutes. C'est un temps de réflexion court. Et je me suis dit, si on me fait confiance, si on me demande, et si je pense pouvoir m'engager et apporter quelque chose dans une conviction et un engagement, j'y vais.
C'était pour un poste de ministre de la Recherche.
C'était pour, au départ, le coup de fil pour le poste de ministre de la Parité, ce qui m'a un peu interpellée parce que, ben voilà, j'avais pas l'impression d'être quelqu'un qui pouvait porter toute la dimension de la parité, parce que je l'ai pas vécu comme une difficulté d'être une femme dans un environnement masculin, mais plutôt à chaque fois comme une opportunité. Donc j'étais pas dans cette pensée, même si je suis très reconnaissante par rapport à tout ce qui se fait, et si aujourd'hui je suis très mobilisée pour amener les femmes dans une dimension d'équilibre meilleure que celui qui naît aujourd'hui, et dans la vie professionnelle ou dans la vie scientifique, bien évidemment. Voilà, ministère de la Parité, c'était pas quelque chose qui sur lequel j'avais cette envie d'engagement. Donc j'ai moi-même demandé le poste de ministre de la Recherche et des Nouvelles Technologies à l'époque, parce que je pensais que je pouvais accompagner cette priorité. C'était une période compliquée. J'ai vécu des moments merveilleux pendant ces deux années passées au ministère de la Recherche. On a fait avancer des très très beaux projets, que ce soit d'ailleurs des projets spatiaux, c'est toute la reconstruction de la filière Ariane 5 à cette époque, que ce soit le projet ITER de fusion nucléaire, où j'ai beaucoup œuvré aussi pour qu'il soit mis en place, et en particulier à Cataraches en Europe. Et donc de magnifiques projets, la transformation d'ailleurs, la constitution de l'Agence nationale de la recherche qu'on connaît aujourd'hui, c'est mon équipe qui l'avait développée avec moi. Mais bien évidemment, quand on vous demande de faire évoluer un système pour qu'il ait plus d'autonomie, pour qu'il ait plus d'agilité dans son fonctionnement, et que cela n'est pas accompagné par une priorité budgétaire, il y a des moments de tension forte, et j'ai connu ces moments de tension forte avec la communauté scientifique.
Mais c'est pas le même genre de tension que celle qu'on connaît quand on est spationaute. Est-ce qu'on est préparé à ce genre d'environnement, de contexte?
Alors, je vous ai dit 11 années de préparation entre ma sélection de 85 et mon premier vol de 96, à mettre en rapport avec 30 minutes de réflexion avant d'accepter la proposition qui m'était faite, un samedi, et mes prises de fonction le lundi matin. Avec la constitution de l'équipe et la prise de contact avec les services et la mise en place du cabinet et du fonctionnement et la connaissance des mécanismes de la recherche que je connaissais de l'intérieur mais que je ne connaissais pas dans sa gouvernance et sa façon de le mettre en œuvre. Après, on apprend en marchant, on apprend par l'expérience des autres, on est là aussi accompagné, mais le propre d'un ministre et de la politique qu'il doit mettre en place, c'est bien sûr une politique de gouvernement, et puis c'est ses propres convictions, cette capacité à trouver les endroits par où on peut passer pour faire avancer effectivement ce qu'on pense être au bénéfice de l'action où on s'est engagé.
Alors vous avez été aussi ministre des Affaires européennes, c'est bien ça ?
J'ai été ensuite ministre des Affaires européennes de 2004 à 2005.
2005, c'est l'année du référendum.
Oui, vous connaissez bien tout ça. Et donc
non, mais je m'en souviens très bien.
Peut-être.
Et pour quelqu'un qui a autant milité que vous pour l'Europe, ça a dû être assez difficile
Je suis effectivement une Européenne convaincue et pratiquante, puisque je l'ai rappelé, mon second vol en 2001 était un vol réalisé avec l'Agence spatiale européenne. J'ai donc volé. Je suis une Européenne de nationalité française et à l'accent français, comme on dit dans la maison. Agence spatiale européenne, j'ai volé avec un drapeau européen sur ma combinaison à côté du drapeau français, et je me suis retrouvée effectivement à être la ministre porteuse du référendum pour le traité en 2005, et donc la ministre du non français au référendum européen. Donc période là aussi de frustration, je peux le dire comme ça. Frustration surtout peut-être sur le fait que on parle toujours de l'Europe en la présentant comme bouc émissaire de beaucoup des difficultés, qu'elles soient économiques, qu'elles soient sociales, ou de difficultés d'affronter une mondialisation complexe et accélérée. Et donc faire une pédagogie pour essayer d'expliquer ce qu'on peut faire mieux ensemble que ce qu'on ferait individuellement avec parfois une nation trop protectrice ou une nation qui n'a pas les moyens d'envisager ces grands projets dont on parlait tout à l'heure. Cette big science dont on parlait, cette grande science européenne, elle est faite à chaque fois avec des agences intergouvernementales, que ce soit les CERN pour la physique des particules, que ce soit l'ESA pour le spatial, que ce soit l'ESO pour les télescopes sur les plateaux du Chili, que ce soit...
Et vous regrettez que ça n'ait pas été suffisamment dit
La pédagogie à faire, en particulier à la radio, je suis ravie aujourd'hui qu'on ait le temps d'une conversation, parce que c'est pas toujours le cas dans une émission de radio où vous êtes...
Conversation scientifique où on parle de tout.
Où on parle de tout, on parle voilà, d'Europe, mais l'Europe fait partie d'une conversation scientifique et j'en suis une militante convaincue. Voilà, faire de la pédagogie de rattrapage, j'ai un peu la peine de le dire, c'est compliqué. C'est compliqué. Ce qui m'amène aujourd'hui, d'ailleurs avec bonheur, à être depuis un an de retour à l'Agence spatiale européenne, et justement à essayer de me consacrer avec cette matière absolument extraordinaire qui est le spatial, que ce soit dans ses activités très technique, de meilleure connaissance de notre planète, parce qu'on a des satellites d'observation de la Terre formidables, qu'on est en train de développer un système de géolocalisation Galileo, qu'on a un lanceur Ariane 5 qui est le plus gros lanceur sur le marché commercial. Donc toutes ces activités au service du citoyen, au service de notre planète, tout autant que ces activités d'exploration qu'on a évoquées tout à l'heure, que ce soit de l'exploration robotique ou que ce soit de l'exploration habitée. Tout ça, c'est une matière absolument extraordinaire qu'on ne peut réaliser que si on est ces 22 États membres ensemble pour réaliser ces programmes.
Donc, il y a des domaines là, dans lesquels l'Europe marche très très bien.
Là, c'est un domaine dans lequel il y a des résultats absolument extraordinaires qui montrent la puissance qu'on peut avoir quand on a cette capacité à être constructif ensemble. Et j'ai beaucoup de bonheur à être de retour à l'Agence spatiale européenne parce que je veux profiter de cette matière en or dont je parle pour essayer de promouvoir une vision constructive, projetée vers l'avenir et d'une Europe qui contribue à cette mondialisation et cette évolution considérable de notre société.
À l'heure où les enfants prennent leur petit déjeuner avant de partir à l'école, une étrange musique retentit dans les stations d'écoute. Les oreilles géantes des radiotélescopes braquées vers l'espace ont capté autre chose que les grésillements sans signification des galaxies lointaines. Un objet fabriqué par l'homme tourne autour de la Terre et la nouvelle arrive comme une bombe dans toutes les salles de rédaction du monde. Le 4 octobre au matin, souvenez-vous, lorsque vous avez allumé votre poste de radio.
Vous écoutez France Culture, la conversation scientifique par Étienne Klein.
Toutes les actualités d'aujourd'hui sont évidemment surclassées par l'événement satellite. Ce satellite artificiel qui gravite actuellement en effet autour du globe à quelques 900 km d'altitude, à la vitesse de 28 800 km à l'heure, le tour de la Terre étant effectué en 1h35 par ce laboratoire exigu qui n'a que 58 cm de diamètre et qui pèse 83 kg 600.
Alors vous avez été également, Claude Ignoret, présidente d'Universcience, oui. Ce qui est une fusion, je ne sais pas si on doit dire fusion entre le Palais de la Couleur.
On va dire fusion. Universcience, c'est un établissement public qui a été créé en 2010 et qui est le regroupement des deux superbes musées de sciences, centres scientifiques parisiens, que sont le Palais de la Découverte et la Cité des Sciences et de l'Industrie. Voilà, réunir ces deux maisons dans leur diversité pour présenter la science, la technologie à ses publics, les réunir dans une structure qui soit encore plus en capacité d'utiliser les nouvelles techniques d'aujourd'hui, de se mettre vraiment à l'écoute d'une population qui a changé aussi dans son rapport avec la science, pour qu'elle ait plus d'impact, au niveau national et puis plus d'impact aussi au niveau international, qu'on puisse vraiment contribuer. Vivre cette expérience pendant 5 ans à la tête d'Universcience, je trouve en ce début de 21e siècle, avec cette nécessité de réfléchir à la fois à la relation que notre société a à la science, la technologie, ses développements complexes, intégrés, l'incertitude de tout ce que le monde nous propose aujourd'hui, des moyens technologiques qui nous permettent d'entrer en science différents, cette nécessité aujourd'hui qu'on a pour retrouver cette confiance par rapport à un avenir dans lequel la science et la technologie contribuent, et qu'on soit pas simplement dans un principe de précaution et une défiance par rapport à ce que l'avenir va nous proposer. Donc on soit en capacité d'avoir des clés, de s'approprier ces éléments qui vont nous permettre nous-mêmes d'être des acteurs de cet avenir, et d'y incorporer quelque chose dont je pense qu'aujourd'hui ça nous manque encore, mais c'est pas à vous là non plus, Étienne, que j'apprendrai ça, l'importance de remettre du sens et de l'humain dans cette destinée de nos sociétés.
Pas seulement de la pédagogie, mais aussi de l'explication des finalités.
L'explication des finalités. Les humanités ont été trop souvent des humanités dites classiques d'un côté, et puis vous aviez science et technologie de l'autre côté.
Les fameuses deux cultures.
Les fameuses deux cultures. Et moi, j'avais fait comme premier geste en arrivant dans cette maison Universcience, c'est un livre collectif dans lequel vous aviez d'ailleurs participé, qui était « Comment remettre la science en culture ?» Réconcilier la science et la culture. Et quand j'utilise le mot d'humanité, les humanités, pour moi, ce sont les humanités scientifiques, les humanités numériques et les humanités classiques, tels qu'on les connaît tous. Et je pense qu'on a ce besoin fondamental aujourd'hui de se reposer cette question du sens et de la place de notre humanité dans sa synergie avec les évolutions d'un monde qu'elle a au bout des doigts.
Mais il semblerait que la donnée ait un peu changé. Nous avons été, vous et moi, adolescents dans la même décennie, dans les années 70, et on nous parlait de l'an 2000 tous les jours. Les magazines pour les adolescents parlaient de la façon de qui était envisagé pour se nourrir, se déplacer, travailler, communiquer. L'an 2000 était configuré, il était représenté, c'est-à-dire mis dans notre présent. Aujourd'hui, 2050, il est aux abonnés absents, de sorte que l'avenir fait plus peur que par le passé, si j'ose dire. Est-ce qu'il y a une parade contre ça ?
Effectivement, je le perçois parce que j'ai une fille de 18 ans et que je vois le monde dans comment elle appréhende le monde d'aujourd'hui, avec effectivement l'incertain et l'accélération à chacun des moments, l'immédiateté, le temps réel. Et donc on vit l'instant présent. Et l'instant présent est déjà assez fascinant pour s'y consacrer, sans avoir cette possibilité effectivement de se projeter même à 2030, vous parlez de 2050, mais même à 2030. Alors que je pense que notre génération avait effectivement cette configuration, cette projection dans l'avenir plus présent. Même la science-fiction aujourd'hui, elle en revient à utiliser nos éléments de l'immédiat et du présent. Oui, c'est sans doute une différence de notre appréhension du futur, ce qui renforce encore cette nécessité d'avoir des grands projets visionnaires et de se décaler et à la fois de décoller son regard d'un horizon qui est celui du quotidien. Et moi, j'ai ce tempérament peut-être de confiance dans l'avenir qui m'amène à envisager possible et donc me donner la responsabilité d'y participer de cet avenir à 2030.
Est-ce que vous avez vu le film Gravity qui montre les aventures d'une jeune femme cosmonaute, enfin spationaute?
Oui, bien sûr.
Est-ce que vous avez rappelé des souvenirs ou est-ce que c'était... Oui, vous l'avez vu comme un film, comme un autre?
Non, pas tout à fait comme un autre. Par ailleurs, avec un scénario qui n'a rien à voir avec un scénario tel qu'on le vit dans nos missions spatiales aujourd'hui. Quelques petites erreurs quand même de mise en place. Mais avec cet élément où moi j'ai replongé dans la vision par le hublot, la fascination de ce mouvement lent. Il y avait des tas de choses qui reproduisaient bien ce qu'un astronaute peut vivre. Et moi je suis assez admirative de cette capacité qu'a le cinéma de fiction américain, certes, de nous présenter Gravity, The Martian, Interstellar, et qui nous projette vers cet avenir. Je crois qu'en Europe, il faudrait qu'on arrive aussi à trouver cette capacité de présenter un récit du futur, une nouvelle narration, et un projet européen qui soit non seulement le projet socle historique, le récit de l'Europe tel qu'on l'enseigne encore aujourd'hui, mais qu'on soit en capacité de construire un récit européen pour le futur.
Claudia Nuret, vous me disiez avant cette émission que vous aviez un projet de village lunaire. Qu'est-ce donc ?
Le directeur général de l'Agence spatiale européenne a proposé cette idée de effectivement faire mûrir un concept d'un village lunaire, c'est-à-dire non plus seulement aller sur la Lune et en revenir, comme ça s'est fait de 69 à 73, mais d'établir un settlement, une installation sur la Lune, d'un village qui serait un village ouvert aux contributions de tous ceux qui ont des programmes à destination de la Lune, c'est-à-dire toutes les agences, quelque chose d'une coopération qui soit inclusive, qui amène la Chine, par exemple, et l'Inde, qui ont des programmes de ce type à participer. Mais là, on est en train de parler d'institutionnels, d'agences spatiales, mais aussi tout ce que le monde de l'économie, du privé, peut avoir envie d'explorer, d'utiliser, que ce soit de l'exploration minière, que ce soit de la construction, que ce soit du tourisme spatial. On peut imaginer tout un tas de métamorphoses en travaillant au niveau de la Lune. Et puis, je trouve que ce projet est un projet porteur de sens pour notre humanité. On a besoin de se projeter beaucoup plus loin. L'exploration, c'est toujours dépasser les frontières et aller au-delà. Aujourd'hui, on se dit que le but, c'est Mars. Mais avant d'arriver à Mars, peut-être ce passage sur la Lune peut permettre de mieux envisager l'expédition habitée martienne. Et puis, en tant que telle, c'est une petite partie de notre humanité qui viendrait habiter un village, bien sûr, construit par des robots. Hein. C'est une synergie complète entre la robotique et l'humain dans cette
initiative. Et combien de personnes dans ce village ? Combien de personnes on pourrait amener en une année, par exemple, sur la Lune ?
Il peut y avoir des missions successives. Je pensais un peu comme une base antarctique aujourd'hui, avec entre 10 et 20 personnes qui pourraient habiter de façon permanente. Et puis, pourquoi pas, des voyageurs, touristes, à certains moments, hein, un peu plus tard dans le temps. Mais je trouve que c'est une belle idée de se dire qu'on a la capacité d'emmener une petite partie de notre humanité, de l'installer dans un village où elle aurait à gérer sa situation d'humanité, débarrassée, je dirais, des contraintes qui nous sont nos contraintes habituelles dans lesquelles notre mondialisation est en train de s'exercer aujourd'hui sur la planète Terre. Pas du tout pour quitter la planète, mais pour se donner un petit peu aussi un lieu d'expérimentation pour un nouveau projet de civilisation. Je trouve que c'est un projet absolument
donc
magnifique.
Vous portez ce projet pour quand ? Pour 2030 ?
2030, on peut imaginer, si effectivement on le démarre, si on arrive à mettre ensemble tous ces partenaires, qu'ils soient institutionnels, qu'ils soient privés, et puis bien évidemment qu'ils soient aussi tout un chacun qui se sentirait concerné par cette vision d'exploration. C'est très inspirant, c'est très motivant.
Mais quand vous en parlez à votre fille qui a 17 ans, je crois, comment est-ce qu'elle vous regarde ? Comment est-ce qu'elle accueille cette idée d'un village lunaire ?
Alors je lui dis que c'est un village où bien évidemment il y aura un nombre limité d'humains qui y seront, mais qu'en 2030 on disposera des capacités de pouvoir à distance pénétrer dans le village, y suivre le développement de la vie, des expériences ou des programmes qui seront réalisés, soit par technique holographique, soit par projection immersive d'autres natures. Elle n'y croit pas. Donc ça m'a...
Elle n'y croit pas.
Elle n'y croit pas parce qu'ils sont dans une immédiateté, dans ce aujourd'hui, ce besoin de dévorer un présent et n'arrivant pas à se construire un futur décalé par rapport à ce qu'ils ont comme outil en main aujourd'hui. Alors, c'est un peu...
Donc vous allez devoir faire encore preuve de pédagogie.
De la pédagogie, de l'expérience, c'est une chose. Et puis je crois que on est là aussi pour tirer par l'inspiration, par la motivation. Le rêve, c'est quand même quelque chose qui nous fait vivre, qui nous fait avancer. Moi, mon rêve, ça a été la Lune. Voilà, je suis revenue à la Lune, j'ai bouclé la boucle.
Claudine, je l'ai dit en introduction, vous avez beaucoup de diplômes. Est-ce que vous êtes docteur honoris causa d'une université étrangère ?
Oui,
Laquelle ?
Je suis docteur honoris causa de l'EPFL, l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, de la faculté de Mons, et puis de l'université de Beihang à Pékin.
Bon, bravo, ça veut dire que peut-être il existe des chaires qui vous sont consacrées. Je propose que s'il y en a une, on l'appelle la chaire du génie. C'est votre anagramme. Merci Claudie Nuret d'être venue à cette conversation scientifique. C'était donc la conversation scientifique par Étienne Klein, avec la collaboration de Catherine Madure, à la technique Nicolas Delmas et à la réalisation François Connac. Tout de suite, c'est-à-dire dans quelques instants, vous retrouvez Projection privée par Michel Simon.